Radio Capi.
Oh, Capi.
Pascal Masserica pour le journal.
Les titres de l'actualité, poursuite à Kinshasa des Jeux de la Francophonie. Le lutteur Andy Mukendi offre à la RDC sa première médaille d'or remportée dans la catégorie des 79 kilos messieurs. C'était hier soir face à l'Arménien Simonia Ramzik. Affaire Chérubin Okende, les avocats du garde-corps et du chauffeur du défunt député national déplorent la violation des droits de la défense. Maître Bertin Toumba et Timothée Moukeng déplorent le fait qu'ils n'ont toujours pas accès à leurs clients. Notre invité, c'est le directeur chef de site adjoint du parc national de la Lomami. Nkulu Kalala parle du centre de réhabilitation et relâchement des perroquets appartenant à l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN. Madame, messieurs, bonsoir. Poursuite à Kinshasa des 9e Jeux de la Francophonie. Le lutteur congolais Andy Mukendi a offert hier dimanche soir à la RDC sa première médaille d'or remportée dans la catégorie des 79 kilos, messieurs, face à l'Arménien Simonia Zarmik. Vanessa Kongolo a assisté au spectacle. Voici son récit.
Dans un gymnase plein au stade Tata Raphaël, avec un public acquis à sa cause, Andy Mukendi Kabeya bat l'Arménien Simorian Ramzik par supériorité technique au point 7-0 et offre à la RDC sa première médaille d'or. Le sélectionneur de Léopard lutte, M. Sikatenda, n'a pas eu de mots pour exprimer sa joie.
On a fait le travail de 3 mois seulement, on a gâché les médailles, c'est une compétition au niveau.
Andy Mukendi n'arrive pas à expliquer sa joie pour la première médaille d'or de sa carrière.
Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie qui m'anime. Je voulais ardemment honorer le pays avec ma médaille d'or au nom de mon président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. J'étais déterminé à décrocher la médaille d'or pour qu'ensemble avec mes coachs et mes coéquipiers que nous puissions rencontrer le chef de l'État. J'ai honoré tous les Congolais, les collègues et mes coachs m'ont aidé à honorer le drapeau national. Mon secret, c'est le travail, car j'ai des entraîneurs très efficaces et qui m'ont aidé à y parvenir.
Cette médaille est la première d'or pour la RDC à cette édition des Jeux de la Francophonie et la troisième de toute l'histoire.
Merci Vanessa Kongolo pour ce reportage. Et puis, les compétitions artistiques et culturelles programmées ici à Kinshasa se tiennent dans divers espaces et sites. Au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, par exemple, des conteurs de plusieurs pays présentent leur spectacle depuis samedi dernier. Hier dimanche, 4 autres pays, dont la RDC, se sont affrontés à travers leurs artistes respectifs. Les comptes rendus de Jean-Marc Matouaki.
C'est le conteur congolais Dan Boussembo qui a ouvert les balles avec un conte très animé. À son tour, le conteur ivoirien Martial Brafou a transporté le public au pays du Garba et dans Loko, en Côte d'Ivoire, avec un conte sur l'histoire d'Abolé, un homme atypique.
Nous sommes dans un petit village où vivait un jeune garçon du nom de Abolé. Abolé faisait toujours le contraire de ce que faisaient les autres.
Pour sa part, la conteuse franco-martiniquaise Noëlla Tanasi a raconté l'histoire d'un musicien hors pair, Tissiré.
Tissiré est un garçon très trouble.
Et c'est le conteur gabonais Adjaeno Sena qui a clôturé la soirée avec un conte sur la protection de la forêt.
La suite de cette réunion, l'homme peut comprendre que les autres espèces ont également droit à la vie. Que les autres espèces ont également des besoins.
Jean-Marc Matouaki sur Radio Okapi. Et puis le directeur du club UNESCO Ntcheko dans la province du Tanganyika appelle les autorités de Kalemie à activer au plus vite l'écran géant monté sur la place Kisebwe pour ainsi permettre à la population de suivre les Jeux de la Francophonie. Dans une déclaration faite ce lundi, François-Xavier Mibé rappelle que ces Jeux de la Francophonie ont également un caractère culturel. Il s'est confié à Paul Emunanga.
Ce qui se passe à Kinshasa doit impérativement toucher, intéresser la communauté congolaise, en l'occurrence la communauté de Kalemi. Nous voudrions parler effectivement des 9e jeux de la francophonie qui se déroulent à Kinshasa au stade de Martyrs. Mais avec beaucoup de regrets, nous sommes en train de réaliser que les compatriotes que nous sommes, nous en sommes privés. Parce que simplement, il y a un écran géant qui avait été doté par Moïse Katumbi ici à Kalemi, mais regrettablement depuis un certain nombre de mois, c'était équipement ne fonctionne pas. C'est vrai que ici nous n'allons pas verser dans les considérations politiques et que acheter, doter Kalemi, il est devenu maintenant un patrimoine culturel. Il est devenu maintenant un patrimoine de la population de Kalemi, donc public. Voilà pourquoi est-ce que pour une situation comme celle-ci, nous voulons lancer un appel pathétique à tous ceux-là qui sont assis sur les sièges de pouvoir donner l'occasion à la population de Kalemi, surtout celle qui vit dans des coins privés d'électricité, de vivre ce qui se passe à Kinshasa. Parce que ce qui se passe à Kinshasa, le 9e jeu de la francophonie. C'est vrai, ça a un caractère culturel.
Joint par nos soins, le maire de la ville de Kalemi a promis d'activer au plus vite cet écran géant. Justice à présent avec l'affaire Chérubin Okende. Les avocats de la défense du commissaire Nico Kabunda Ntambi et Papi Ngaka, respectivement garde des corps et chauffeur du défunt député national, déplorent la violation des droits de la défense. Maître Jules Bongombe, Bertin Toumba et Timothée Moukeng affirment n'avoir pas accès à leurs clients. Ils l'ont dit dans une correspondance adressée vendredi dernier au procureur général près la Cour de cassation. On écoute Maître Jules Bongombe.
Comme vous le saviez, on était devant le PGR près de la Cour de cassation. Depuis le 20 juillet 2023, on avait déposé une requête pour dénoncer la violation flagrante des droits de la défense. Maintenant, il fait plus d'un jour. Nous sommes encore retournés auprès de lui pour lui rappeler par une autre correspondance que nous ne sommes toujours pas en contact ou en communication avec nos clients. Que la Cour nous éclaire un peu si ce qui se passe est vraiment réel, c'est trop. Personne ne peut violer ce droit-là qui est garanti par notre Constitution dans son article 19. Il y a un cas qui stipule que lorsqu'on arrête une personne, même devant les services de sécurité, il doit être assisté. Personne ne peut violer les droits de la défense. Ça nous inquiète un peu. On ne sait pas si nos clients sont en bonne santé, s'ils sont bien nourris ou logés. Et en dehors de ça, tous ces PV-là qu'on est en train d'auditionner, aura quelle force de loi? Et quand on va poser ça devant leur juge naturel, aura quelle crédibilité?
Notez par ailleurs que la famille et les avocats du député national Chérubin Okende ont été invités à une séance de travail aujourd'hui lundi avec le procureur sur leur préalable en vue de procéder à l'autopsie du défunt. Le député national est candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain. Deli Sesanga déplore les violences survenues lors de son arrivée samedi dernier à Kananga et la perturbation de son meeting. Dans une déclaration faite hier dimanche après-midi, il pointe du doigt les partisans du pouvoir en place. Son cortège a été victime des violences de l'aéroport jusqu'au centre-ville. L'opposant Sesanga a même été touché à la tête par un projectile. On l'écoute, Deli Sesanga.
Cette population veut désormais voir, comme toutes les autres provinces du Congo, les choses changer. Et c'est pourquoi, dans l'optique de ce changement, nous avons proposé un programme alternatif qui s'appelle Refondation du Congo, pour lequel je suis candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023. J'aimerais bien rappeler que l'élection régulière, la tenue des élections, fait partie des rituels normaux dans le cadre d'une démocratie et que la liberté de chacun est de mise. Je suis élu de cette ville de Kananga comme député provincial. Je suis élu dans cette province, dans le territoire de Luisa, comme député national. J'ai donc la mission christique de défendre les intérêts de mon peuple, de mes électeurs, de la population congolaise tout entière et de ceux des circonscriptions qui m'ont élu.
Partons maintenant pour l'Ituri où plus de 1500 enfants sont privés d'école depuis l'attaque du mois de juin dernier du site de déplacés de Lala dans les territoires de Djougou. Certains sont morts, d'autres ont perdu leur fourniture scolaire et d'autres encore ont abandonné carrément les études pour s'adonner aux activités champêtres. À Bounia, la correspondance d'Ezekiel Mouzalia.
Au total, 6 écoles fonctionnent dans les sites de déplacés de Lala, à plus ou moins 100 km au nord de Bounia, dans le territoire de Djougou. Il s'agit notamment des écoles primaires Ouadri, Deja, Tsa, Langbeyoupa et Goï. Elles accueillent d'autres enfants et aussi déplacés du site de Plensavo. Les rares qui poursuivaient encore les cours dans ces établissements scolaires ont abandonné et se livrent aux activités champêtres rémunérées ou à la mendicité pour subvenir à leurs besoins de famille. Bonanze Bahati, l'une des institutrices.
Les enfants ne vivent pas dans une bonne condition. Et cela influence sur eux leur niveau mental. Il n'y a pas moyen que les enfants puissent fréquenter l'école régulièrement. Beaucoup ont abandonné.
Le président du site des déplacés de Lala demande au gouvernement provincial ainsi qu'aux humanitaires d'intervenir urgemment pour sauver l'avenir de leurs enfants à la prochaine rentrée. Banga Stéphane.
La vie est devenue très difficile ici au site. Nos enfants devraient étudier, mais il n'y a pas de moyens. Nous avions choisi nos dirigeants aux élections de 2018. Nous leur avions donné le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Mais pourquoi jusqu'à présent, ils nous ont oubliés.
Ces déplacés invitent les gouvernements et ses partenaires à garantir leur sécurité, mais aussi de rechercher les auteurs des attaques de juin dernier et de les poursuivre en justice. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Pendant ces temps, au Nord Kivu voisin, 650 déplacés qui avaient fui les attaques des rebelles ougandais de l'EDF depuis plus d'une année à Biakato et ses environs commencent à regagner leur zone. Biakato est une localité située à 90 km à l'ouest de la ville de Beni. Le responsable de ces sites affirme à Radio Okapi que seuls 61 ménages sont encore hébergés sur ces sites. Mboussa Maliatirou est au micro de Marc Marofimo.
Actuellement, les déplacés respirent une petite tranquillité. Ils collaborent bien aussi avec la population locale. Dans ce site de Kamuchanga, nous comptons 327 individus de 61 ménages. Ça fait 3 semaines que nous avons reçu la dernière assistance. Quelques-uns de nous ont regagné leur milieu d'origine à cause de la calmie signalée dans les régions, notamment à Biakato et ses environs. Nous qui sommes restés ici, demandons de l'aide, que les autorités songent à nous, mais surtout la paix dans nos milieux d'origine.
Ville Amani.
Autre nouvelle en plus bref, l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kisangani dans la province de la Tshopo est arrivé ce lundi dans la ville. À sa descente d'avion, Monseigneur Léonard Njadi Njate a été accueilli par l'abbé Maximilien Lobanga, curé de la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Pour mémoire, ce prélat a été nommé récemment à ce poste par le pape François. Pour la suite du journal sur Radio Okapi ce soir, sachez que le sénateur Augustin Matata Ponyo a lancé ce week-end les travaux de forage d'eau potable dans la ville de Kindu. Cette opération a débuté au bloc Brazanem. Un ouf de soulagement pour les habitants de la ville, comme l'explique ici le directeur de l'entreprise qui exécute les travaux, Gloria Komba, au micro de Florence Kizalunga.
On est en train de réaliser un forage mécanique où le forage va fonctionner selon le besoin de la communauté. C'est-à-dire, on fait le forage, après avoir fait le forage, on fait le château d'eau qui sera composé d'un tank de 2000 litres et puis une borne fontaine pour la communauté. Ça peut servir aux environ 700 personnes. En tout cas, les travaux prendra juste 5 jours et la personne qui a financé, c'est le sénateur Matata Ponyo. En tout cas, comme le besoin, il y a de multiples besoins. Je suis sûr et certain que parmi les multiples besoins, le sénateur a déjà répondu positivement par rapport à nos besoins. En fait, ce que nous allons demander à la population de bien garder cet ouvrage parce que ce n'est pas facile. Parce que ce que le sénateur a fait, ce n'est pas quelque chose au hasard. Parce que nous projetons aussi faire d'autres forages dans d'autres endroits. Ce n'est pas seulement, on ne va pas encore se limiter seulement au niveau des Brazza. On va aller vers Omata, partout. Parce que je sais que la ville de Kindu a un sérieux problème d'eau.
Actualité internationale.
Au Niger, le Comité national pour la sauvegarde de la patrie accuse cet après-midi les forces françaises de préparer une intervention militaire contre le palais présidentiel à Niamey. Selon la junte au pouvoir, c'est pour obtenir la libération du président Mohamed Bazoum. Et puis, alors que la CEDEAO a pris des sanctions contre la junte, le ministre de l'Intérieur, Ham Amadou et celui des transports et voies de communication Oumarou Malam ont été arrêtés ce lundi. Au Sénégal voisin, le chef du parti PASTEF a été déféré au parquet samedi après avoir été arrêté à son domicile de Dakar. Le procureur général accuse Ousmane Sonko d'avoir appelé à l'insurrection et d'avoir volé un téléphone. Et puis, le responsable de la contre-offensive de l'Ukraine a déclaré aujourd'hui que les forces de défense russes rendent actuellement difficile la progression des chars et des véhicules blindés occidentaux. Le général Alexander Tarnavsky affirme que ces forces ont du mal à surmonter les champs des mines à plusieurs niveaux et les lignes de défense fortifiées et que les militaires russes ont fait preuve actuellement de qualité professionnelle en empêchant la progression des forces ukrainiennes.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur chef de site adjoint du parc national de la Lomami, Nkulu Kalala, parle du centre de réhabilitation et relâchement des perroquets appartenant à l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Nkulu Kalala, bonjour.
Bonjour madame.
L'ICCN Maniema dispose désormais d'un centre de relâchement et de réhabilitation des perroquets. Pouvez-vous nous parler d'abord de ce centre?
Oui. Dans un premier temps, les animaux saisis et confisqués étaient transférés à l'URU. C'est un centre de l'ICCN, centre de réhabilitation. Ils ont toutes les infrastructures qu'il faut. Ils ont une clinique vétérinaire, des produits, une expertise. Avec le temps, les gens se sont beaucoup posé beaucoup de questions, à savoir pourquoi les espèces confisquées étaient transférées à l'URU. Une idée nous est venue en tête d'ouvrir un centre à Dingui. Ça nous donne beaucoup de facilité qu'on puisse tout de même, pour certaines espèces comme les perroquets, qui n'ont pas beaucoup d'exigences pour leur suivi encadrement, qu'on puisse faire un centre ici chez nous à Dingui, loin de Bukavu.
Est-ce que ce centre nous garantit il y a tous les atouts pour garder ces espèces?
Vous devez savoir, madame, ces espèces, d'abord quand elles sont confisquées, ils viennent dans un état de détresse, avec des plumes ébouriffées, des fois avec des plumes défaites, en mauvais état de santé. L'importance pour nous, c'est de les récupérer afin qu'ils ne courent pas les dangers d'extinction tout en étant en ville. Alors, quand ils sont à Dingui, ils sont dans des conditions acceptables de reconditionnement. Ça veut dire quoi? Nous avons apprêté de grandes volières ayant beaucoup d'espace. On apprête également une alimentation équilibrée, diversifiée, mais aussi leur état de santé est suivi. Ils ont ne fût-ce que des produits vétérinaires génériques pour qu'ils soient en santé. Et voilà pourquoi nous avons préféré les amener à Dingui, dans un cadre spécifique qui sont suivis et selon ce qu'on a comme expérience, expérimentation faite déjà, nous pensons que ça va.
C'est après combien de jours que vous les relâchez et quand vous les relâchez, vous êtes sûr qu'ils s'adaptent facilement à la nature?
L'agent qui les suit, c'est quelqu'un déjà qui a une bonne formation en ce domaine, c'est un biologiste et il les fait depuis tout le temps. Et pour votre information, actuellement à l'URO, renforcer ses compétences pour faire le bon suivi de ces animaux. Nous pensons tout de même que déjà, les niveaux qu'il a, l'expérience qu'il a, nous pensons qu'il fait les choses assez correctement. Les relâcher après combien de temps? Comme je vous ai dit, il faut d'abord que les plumes puissent repousser, la santé puisse revenir, et puis il ouvre la porte. Après quelques temps, quand il sent que les animaux sont dans des conditions acceptables pour vivre indépendamment des nutritions qui assistent ces oiseaux, on les observe, on ouvre. Ceux qui sont forts partent. Certains partent, reviennent. Ce n'est qu'ils sont prêts pour partir, qu'ils vont voler, aller définitivement en nature. Ils ont déjà un instinct de conservation, un instinct pour vivre en fait. Donc quand ils sont en nature, là, ils ont été depuis tout le temps, nous pensons qu'ils vont facilement s'intégrer, retrouver leur milieu d'antan, c'est d'increr dans d'autres bandes de perroquets qui vont leur permettre de s'épanouir et de revivre comme ils le faisaient avant qu'ils ne soient capturés et réintroduits en nature.
C'est que vous n'avez pas un système de suivi de ces espèces et une fois que vous les relâchez?
Bon, c'est une question compliquée. Je crois que je vous dis, nous sommes un jeune parc. Ce que nous faisons tout de même d'une façon avec l'expérience que nous avons. Nous avons encore perfectionné nos méthodes de travail pour qu'on puisse faire un suivi systématique. Mais dans un premier temps, nous les relâchons en nature et on sent qu'il n'y a pas ceux qui viennent qui sont rattrapés par les communautés. Nous pensons qu'ils s'adaptent assez facilement. Mais c'est une question qui est préoccupante. Prochainement, nous devons chercher une façon scientifique de les suivre quand ils sont relâchés. Ça nous rassure.
Et les manima n'ont pas que les perroquets comme espèce protégée. Et les autres, par exemple, les primates, qu'est-ce que vous pensez faire d'eux? au lieu de les envoyer à l'Huron.
Dans un premier temps, nous n'avons pas l'expertise requise pour que nous puissions garder les primates ici au Maniema. Et voilà pourquoi, pour les primates, nous allons préférer encore que nous puissions les avoir à l'Huron. Ils sont suivis. Vous devez savoir que les primates, d'abord, ce sont des espèces proches de l'homme qui développent beaucoup de zoonoses. S'ils ne sont pas bien entretenus, soit ils seront contaminés par l'homme, soit ils vont contaminer l'homme. Là, nous faisons de réserves. Nous les faisons plus facilement avec les perroquets. Et pour nous, nous pensons que ça pourrait marcher.
Monsieur Nkoulou, la communauté voudrait savoir pourquoi vous voulez toujours protéger ces espèces.
Ces espèces sont classées totalement protégées. Ce sont des espèces qui ont été surexploitées en voie d'extinction. Et voilà pourquoi nous les protégeons. Vous devez savoir que certaines espèces sont endémiques, par exemple ici au Maniema, ou dans une région au niveau de l'Afrique, qui ne sont pas partout au monde. Si ces couches disparaissaient, donc le monde entier n'aura pas ces espèces. Voilà pourquoi nous tenons beaucoup à les protéger et également sensibiliser les communautés. Les espèces comme les perroquets, les chimpanzés et les autres totalement protégés doivent contribuer à leur protection. Les laisser en nature évoluer correctement, s'épanouir correctement. Voilà. Ce sera leur contribution à la protection de la nature au niveau de cette république.
Monsieur Nkoulou Kalala, merci.
Je vous remercie, madame.
C'était l'invité de Radio Kapi, le directeur chef de site adjoint du parc de la Lomami, Nkoulou Kalala, a été interviewé à Kindu par Florence Kizalunga. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale d'Alain Rongo Mouchinch.